Bon matin. Ça va bien? Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Excellent. Il y a encore quelques bancs vides. Je crois que l'été continue. Plusieurs personnes sont en vacances, dont certains de nos pasteurs, le pasteur Yannick et je crois aussi la famille de Miguel. Je regarde pour voir si tout le monde... Il manque plusieurs personnes. OK, Alexandre est là. Donc, c'est un plaisir ce matin de poursuivre dans la série. Vous savez que pendant l'été, nous allons être ensemble dans la série, dans une série de prédications dans le livre d'Ésaïe. Et comme le pasteur Yannick le rappelait il y a quelques semaines, Ésaïe peut être considéré littéralement comme le cinquième évangéliste, tant il a prédit ce qui allait arriver par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup des textes d'Ésaïe sont repris en abondance dans le Nouveau Testament. Donc nous aurons la grâce ce matin d'être ensemble dans le livre d'Ésaïe. Et ceux qui suivent la lecture biblique avec nous, qu'on a commencé depuis le début de l'année, vous savez certainement que vous êtes probablement rendu dans le livre d'Ésaïe. Vous venez de le finir à peine. Donc, vous avez eu peut-être deux petites vidéos dans le livre d'Ésaïe, en tout cas qui racontent un peu comment le livre d'Ésaïe est structuré. Il y a en fait deux grands mouvements dans le livre d'Ésaïe. La première partie qui va quasiment jusqu'au chapitre 39 raconte un peu comment le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu et cet éloignement du peuple d'Israël de Dieu a provoqué des conséquences assez graves dans la population, ce qui a amené Dieu à se retirer du peuple de Dieu et naturellement, quand Dieu n'est pas présent, dans la vie d'un peuple comme le peuple d'Israël, peuple consacré à Dieu, les conséquences sont immédiates. Ce peuple allait souffrir de différentes choses. Et une de ces choses que Ésaïe annonçait, c'est la déportation, le fait que ce peuple va être soumis à d'autres peuples à cause de sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Mais dans sa grande bonté, dans la deuxième partie du livre, on voit naître de l'espoir. Ésaïe annonce de l'espoir à ce peuple qui pourtant est rebelle et à cause de sa rébellion a dû affronter différentes choses qui allaient leur arriver. Mais Ésaïe prend le temps de leur dire « Oui, vous allez souffrir à cause de votre rébellion. Vous allez souffrir à cause du fait que vous êtes éloignés de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, Dieu, dans son grand amour, a un plan merveilleux pour ce peuple. Et ce plan, c'est qu'un jour, Dieu va restaurer entièrement ce peuple. Et le texte que nous allons voir ce matin ensemble, celui que nous allons couvrir dans Ésaïe 43, est un des plus beaux textes, si on peut dire, de la parole de Dieu, où on voit le cœur de Dieu littéralement mis à nu pour l'amour de son peuple. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin. Bien-aimés, prenons le temps d'aller dans la parole et demander au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce matin, vous n'êtes pas venu pour écouter un être humain, même si je suis un être humain. Vous êtes venu pour écouter l'Esprit de Dieu vous parler. Vous êtes venu écouter Dieu vous parler. Nous sommes simplement des instruments entre les mains de Dieu qu'il utilise, des instruments inutiles littéralement entre les mains de Dieu, parce que personne ici ne peut prétendre être capable de pouvoir présenter la parole de Dieu comme il se doit. Le Seigneur nous utilise avec nos faiblesses, avec nos manquements, pour vous présenter sa parole. Alors ce n'est pas un homme que vous entendrez, mais c'est l'Esprit de Dieu que le Seigneur, que vous puissiez demander au Seigneur qu'il puisse se révéler à vous personnellement ce matin et qu'il puisse vous convaincre par son esprit de la vérité qu'il veut nous enseigner chacun individuellement dans cette parole. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons être, de ce que nous sommes présents, de ce que tu nous as donné la respiration, le souffle, le mouvement pour être présents ce matin. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu veux ce matin nous instruire dans ta parole, nous amener à comprendre les vérités essentielles de ta parole. Seigneur, nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour le comprendre. Nous n'avons pas la sagesse pour prendre possession de ces vérités et les appliquer à nos vies. Mais par ton esprit que tu as mis en nous, tu peux venir faire ce miracle-là dans nos cœurs. Puisses-tu, Seigneur, ce matin, te révéler à nous comme jamais auparavant. Puisses-tu venir nous parler cœur à cœur, d'esprit à esprit. Puisses-tu venir nous humilier afin qu'en s'humiliant devant toi, nous puissions être élevés au temps opportun. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen. Écoutons le texte biblique.
La lecture de ce matin est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 43, les versets 1 à 5. Je vais lire la nouvelle édition Genève. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident.
Amen. Merci Stéphane. En fait, aujourd'hui, nous allons parler du réconfort pour cœur brisé. Et cette petite expression veut tout dire. Mais en y réfléchissant, on se rend compte que si la vie humaine était un long fleuve tranquille, parsemé que seulement de moments de bonheur, probablement que le mot réconfort n'existerait même pas. Mais la réalité, bien-aimé, vous le savez mieux que moi, la réalité est tout autre. Et cette réalité frappe autant celui qui connaît Dieu comme celui qui ne connaît pas Dieu. La vie est faite, certes, de moments de joie où nous célébrons nos accomplissements, nos réalisations, nos grandes victoires. Mais aussi, et plus souvent qu'autrement, la vie aussi est faite de grands moments de vulnérabilité, même voire de détresse. Ce sont des moments difficiles et parfois notre cœur est littéralement brisé et même en proie à l'angoisse. Chacun de nous, probablement, avions déjà expérimenté ces moments difficiles. Et dans différents domaines de notre vie, probablement dans votre couple ou dans votre famille, vous avez expérimenté des moments de vulnérabilité, d'angoisse. Peut-être dans votre famille, dans vos relations avec vos frères ou sœurs, dans vos relations avec vos enfants, dans vos relations avec vos parents ou même avec la grande famille élargie. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ces moments aussi dans votre travail, dans le travail lui-même, la difficulté dans votre travail ou dans vos interactions avec vos collègues de travail ou même avec votre supérieur ou même des gens qui travaillent sous vous. Quand les circonstances de la vie ou d'autres événements inattendus vous frappent en plein fouet, ça peut être l'échec. Ça peut être des conflits, même dans l'Église. Ça peut être la mort d'un être cher. Ça peut être la perte d'un emploi. Et la liste est longue. Même les enfants de Dieu ne semblent pas à l'abri de ces choses. Ces terribles moments semblent souvent d'ailleurs plus nombreux que les moments, les courts moments de joie que nous pouvons vivre. Voici comment un de mes poètes préférés de la littérature française rend un peu cette idée. Il dit dans son poème « Le lac », c'est Alphonse de Lamartine qui dit « Ô temps, suspends ton vol et vous, air propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour au long flot nous verse le bonheur s'envole loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur ? Bien-aimé, je pourrais passer toute la journée ainsi à vous déprimer sur la dure réalité de la vie humaine. Et cela est vrai, cette vie, vous la connaissez. À la fin de la journée, vous n'aurez rien appris de nouveau parce que cette vie, c'est la vôtre. Vous la connaissez, ces moments difficiles, c'est la vôtre, c'est les vôtres. Vous les connaissez. Mais bien-aimé, puisque c'est ce que vous êtes pour moi, et bien plus encore pour le Seigneur, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous ce matin. Au lieu que ces moments d'angoisse, ces moments de vulnérabilité, soient des moments où vous vous laissez complètement aller au désespoir, le Seigneur ce matin voudrait nous apporter un message. Ces moments peuvent être des opportunités uniques pour expérimenter le réconfort qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette perspective que le prophète Ésaïe va nous présenter dans le texte que nous allons ensemble parcourir ce matin. Et c'est cette perspective que le prophète Ésaïe présente au peuple d'Israël qui devait subir un des pires moments de leur histoire sous la déportation à Babylone. C'est ces moments de réconfort et d'espoir que Ésaïe présente au peuple d'Israël. Or, le vrai peuple d'Israël, c'est qui ? C'est nous, c'est vous et moi qui avons placé notre confiance et notre foi dans la personne de Jésus-Christ, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, bien-aimés, comment je résumerai l'exposé de ce matin. Le plus grand réconfort du chrétien se trouve dans la certitude que lui donne le Saint-Esprit qu'il appartient à Christ qui est présent dans sa vie partout et en tout temps. Laissez-moi résumer de nouveau l'exposé de ce matin. Le plus grand réconfort du chrétien se trouve dans la certitude que lui donne le Saint-Esprit qu'il appartient à Christ qui est présent dans sa vie partout et en tout temps. Avant de plonger nos regards dans le texte que notre frère Stéphane vient de nous lire, prenons un instant pour comprendre même le sens du mot réconfort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous savez que pour mieux comprendre le sens d'un mot, il est bon de se tourner simplement vers un dictionnaire. Alors, j'ai fait l'exercice. Voilà comment le dictionnaire définit le mot réconfort. État psychologique, fait d'un regain de force, de courage, en particulier parce qu'on se sent encouragé, appuyé par une autre personne. Je répète, état psychologique, fait d'un regain de force, de courage, en particulier parce qu'on se sent encouragé, appuyé par une autre personne. Laissez-moi illustrer cette définition par une image. Celle d'un enfant recherchant le confort dans les bras de son père ou de sa mère ou d'un être aimé autour de lui. Apprenons de l'attitude d'un enfant. Quand un enfant vit des moments d'angoisse ou de vulnérabilité, son réflexe naturel est de se tourner vers une figure protectrice autour de lui, Ça peut être son père, sa mère, son frère, sa sœur, ou simplement quelqu'un autour de lui qu'il connaît très bien. Et c'est la première vérité que Ésaïe va nous enseigner dans le passage biblique de ce matin. Le réflexe chez le chrétien n'est pas naturel, comme chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est vraiment naturel. Il vit des moments d'angoisse et automatiquement, il a ce réflexe de se tourner vers quelqu'un qui peut le protéger, quelqu'un qui peut prendre soin de lui. Mais chez le chrétien, ce n'est pas naturel. Alors le chrétien, comme enfant de Dieu, doit apprendre cette vérité. Et c'est la première vérité que Ésaïe va nous apprendre. Alors Ésaïe nous dit d'entrer, « Sois zen, tu appartiens à Christ. » Ésaïe 43, verset 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob ? Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Connaissez-vous la zen attitude? Est-ce que vous savez c'est quoi la zen attitude? C'est une industrie de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards de dollars. Vous trouverez des livres, des coachs, des techniques scientifiques et pseudo-scientifiques pour être zen. Tout le monde veut être zen. Ce matin, l'objectif de l'exposé n'est pas de faire un procès contre aucune de ces méthodes qui peuvent avoir leurs bénéfices. Mais Ésaïe nous apprend dans le verset que nous venons de lire que la base pour avoir, pour être zen, si vous cherchez vraiment à être zen, si vous êtes à la recherche de la zen attitude, la première chose que vous devez apprendre, c'est avoir conscience que Christ, de votre relation avec Christ, c'est prendre conscience de ce que Christ est pour vous, ou plutôt de ce que vous êtes pour Christ. C'est exactement la même chose, c'est comme dire bonnet blanc, blanc bonnet. Ce que vous êtes pour Christ, c'est ce que Christ aussi est pour vous, c'est réciproque. Le secret numéro un de la zen attitude, c'est de savoir qu'on appartient à Dieu, qu'on appartient à Christ. Et cette vérité fondamentale que Ésaïe nous présente en premier lieu va se décliner en trois points. D'abord, Ésaïe nous apprend clairement que Christ t'a créé et il t'a formé. Christ est ton créateur. Relisez avec moi le verset 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé. » Reconnaître que tu appartiens à Christ, c'est d'abord accepter que Christ t'a créé. Pour reconnaître que tu appartiens à Christ, la première chose, le premier pas, c'est de reconnaître que Christ t'a créé et t'a formé. Les Saintes Écritures nous enseignent clairement que Christ nous a même tissés dans le sein maternel. Nous avons été créés, tissés dans le sein maternel et qu'il connaissait même tous les jours de notre vie avant même qu'aucun de ces jours n'existe en réalité. Récemment, la femme d'un ami nous a raconté une petite anecdote. Un jour, un scientifique et Dieu étaient en discussion. Je ne sais pas où la discussion a eu lieu, mais ils étaient en discussion pour savoir lesquels de deux étaient en mesure de faire un monde meilleur, un monde parfait. Alors, Dieu décide de relever le défi, mais demande au scientifique de commencer. Ce dernier, le scientifique, comme à son habitude dans un laboratoire, donc commence par rassembler différents ingrédients, différents matériaux. Il prend un peu de l'eau, de la terre, il commence par faire des mélanges. Et Dieu l'arrête tout de suite et lui fait comprendre, lui signifie qu'il doit utiliser ses propres matériaux. Vous comprenez, si quelqu'un prétend ne pas être une créature de Dieu et qu'il est sa propre créature, alors qu'il utilise ses propres matériaux pour faire sa démonstration, qu'il n'utilise pas ceux qui ont été faits par un autre. C'est ça la morale de l'histoire. Dieu nous connaît, connaît chaque cellule, chaque sentiment de notre être. Dieu le connaît parce qu'il est notre créature, créateur, et nous sommes sa créature. Le reconnaître, c'est ça même le premier pas, le premier élément essentiel si nous voulons être zen. Si nous voulons être zen, le premier élément, c'est que nous devons reconnaître que Dieu nous a créés. Et c'est ce que le psaume 139, les versets 15 et 17 nous disent. « Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Voilà le premier élément si nous voulons vraiment reconnaître que nous appartenons à Dieu. Nous devons reconnaître d'abord que Dieu, Christ, est notre Créateur. Le deuxième point, la Bible nous dit que Christ t'a racheté, il est ton Rédempteur. Retournons toujours dans le verset 1 d'Ésaïe. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. » Au-delà de reconnaître que Christ t'a créé, tu dois aussi reconnaître que Christ est ton rédempteur, c'est-à-dire celui qui te rachète. Mais qu'est-ce que ça signifie, celui qui me rachète? Avant, nous étions tous esclaves. Ce qui veut dire que nous avions tous un maître. Parce qu'un esclave, ça n'existe pas tout seul. Personne ne se lève et dit, moi, ça me tente aujourd'hui d'être esclave. Je suis mon propre esclave. Non, si vous êtes esclave, c'est que vous avez un maître. Donc, vous tous ici, nous tous ici, nous avions un maître avant. Donc, nous étions esclaves. Et un jour, un autre grand propriétaire d'esclaves, en la personne de Jésus-Christ, s'est présenté au marché des esclaves à Golgotha. Et il a décidé de sortir de son porte-monnaie tout l'argent qui lui restait, c'est-à-dire toute sa vie. Et il a donné pour te racheter. Et en te rachetant, il s'est acquis des droits uniques et définitifs sur toi. Il a payé pour toi. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu n'es plus à toi. Maintenant, ton maître n'est plus ton ancien maître. Tu as un nouveau maître. Et ce nouveau maître a donné sa vie pour toi. Voilà pourquoi il s'est acquis le droit final, définitif, qui ne peut être révoqué, que désormais tu es à lui. Voilà pourquoi il te dit, maintenant tu m'appartiens, mon ami. Mon ami, tu m'appartiens. J'ai acheté, j'ai payé à la croix de Golgotha pour cela. Tu m'appartiens. Alors, il dit ceci, ne crains rien, je t'ai racheté, j'ai acheté. J'ai acheté tous les droits. Tu n'as pas à avoir peur de l'ancien maître. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. C'est fini. Ta vie d'esclavage avec l'ancien maître, c'est fini. Tu es maintenant esclave, mais pas de lui, de moi. Mais moi, ton nouveau maître, je te dis, ne crains rien, car je te rachète. Voici comment Paul écrit aux Galates sur cette vérité. Galates 4, 3 à 6. Paul dit ceci, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ça ne pouvait pas être mieux dit, bien-aimé. Le deuxième élément qui démontre que tu appartiens à Christ, non seulement il est ton Créateur, mais il est celui qui a payé pour toi, il t'a racheté, il est ton Rédempteur. Le troisième élément, c'est que Christ te connaît personnellement. Tu es à lui. Relisons toujours le premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Affirmer que tu appartiens à Christ, c'est le point de départ de la zen attitude. C'est savoir que tu n'es pas seulement un de ces nombreux enfants sans nom. Vous connaissez la fameuse publicité, les produits sans nom. Donc, tu n'es pas un de ces enfants de Christ sans nom. Tu as un nom. Aussi nombreux qu'on puisse être sur la terre, Dieu nous connaît chacun personnellement par son nom. Non seulement Dieu s'est déjà acquis un double droit sur toi. En tant que créateur, il avait déjà un droit. Ensuite, en tant que rédempteur, parce qu'il t'a racheté, il a donc un double droit sur ta vie. Mais il te dit, sans ambiguïté, il affirme que maintenant tu es à lui. L'acte d'achat, l'acte d'adoption a été signé. Il est irrévocable. Et Paul le dit si bien encore aux Romains et aux Colossiens en ces termes. Dans Romains 8, le verset 15, Paul affirme « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et aux Colossiens, Paul réaffirme cette vérité dans Colossiens 2, 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors dites-moi, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, comment ne pourrions-nous pas être zen? Est-ce que ça vous prend encore une autre démonstration? Pour être zen, tu appartiens à Christ. Nous savons avec certitude que Christ nous gardera, qu'il nous protégera et qu'il prendra soin de nous parce que nous lui appartenons. Aussi méchants que nous pouvons être, regardez comment nous prenons soin de nos enfants. Que dis-je? Comment nous prenons soin de nos chats, de nos chiens, de nos cochons d'Inde? Et citez-les autant que vous voulez. Voyez quel soin nous prenons pour toutes ces choses, parce que ces choses-là nous appartiennent. Combien plus forte raison le Créateur de l'univers, Jésus-Christ, le Maître absolu, pourra prendre soin de nous si nous plaçons toute notre confiance en lui. Nous savons, par la conviction que nous donne le Saint-Esprit, que Christ n'arrêtera jamais l'œuvre qu'il a commencée en nous, d'abord en nous créant, ensuite en payant le plus grand prix qu'on puisse payer pour nous racheter et en déclarant qu'il nous connaît par notre nom, il nous connaît personnellement. Allons plus loin dans la réflexion que Ésaïe nous propose ce matin. Revenons un peu à mon illustration de tout à l'heure, de la définition du mot réconfort. Imaginez un enfant en pleine panique qui se retourne vers... On a dit tout à l'heure que c'est un réflexe naturel, n'est-ce pas? L'enfant, il est en pleine panique, il se retourne vers qui? Vers un de ses parents, quelqu'un d'aimé. Et quand il se retourne, la personne n'est pas là. Vous comprenez? Là, l'enfant est figé. Il est encore plus terrifié qu'avant. Parce que le seul source de réconfort qu'il avait dans son esprit vient de disparaître. Le monsieur s'est tout simplement absenté parce qu'il avait un besoin pressant. Vous comprenez? Ou parce qu'il avait deux enfants et l'autre se chicanait à l'autre coin de la patinoire. Ésaïe te dit ce matin, ce n'est pas possible. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Quand tu te tourneras vers lui, parce que tu es pris dans une position d'angoisse, il sera toujours présent. Il ne sera pas aux toilettes. Il ne sera pas en train de somnoler. Oh, il ne sera pas occupé avec un autre cas tellement grave dans l'Église que ça, c'est la priorité numéro un. Non, le Seigneur sera toujours présent, ceci partout et en tout temps. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit ce matin, « Ne crains rien, Christ est avec toi. » Christ est avec toi dans toutes tes difficultés. Vous me direz probablement, vraiment, vraiment, partout. Ésaïe répond, oui. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe ici utilise des images fortes pour enraciner le peuple de Dieu dans la certitude de la présence de Dieu dans leur vie, dans leur parcours, et ceci dans toutes les circonstances de leur vie. Les éléments que Ésaïe utilise montrent toute leur férocité, la rudesse des forces dévastatrices qui peuvent survenir dans votre vie. Parfois, il faut plus qu'une version biblique pour comprendre certains textes. Alors, je vous invite à relire le même texte dans une autre version, dans la version du semeur. Et la manière dont la version du semeur rend ce verset, c'est exactement les mêmes mots qui sont utilisés dans toutes les versions anglaises pour rendre ce verset. Voilà ce que la version du semeur dit. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Le passage affirme clairement que ce sont des circonstances qui seront présentes dans ta vie. Ce n'est pas un si conditionnel. Ce n'est pas que peut-être que tu vas... Non, non, le passage dit quand. Il y aura un moment dans ta vie où tu marcheras dans le feu. Il y aura un moment dans ta vie où tu traverseras les grandes eaux. Il ne s'agit pas de savoir pour l'enfant de Dieu si ces moments vont arriver, si ces circonstances, il va vivre ces circonstances. Mais il faut que l'enfant de Dieu soit conscient que ces circonstances font partie naturellement de sa vie, de sa marche. Et nous faisons face à ces moments difficiles. Et pendant ces moments difficiles, Christ nous dit qu'il est présent. Bien-aimés, les choses que nous vivons, les moments difficiles que nous vivons, sont parfois tout simplement le résultat du monde déchu dans lequel nous habitons. Nous ne pouvons pas faire extraction de tout le péché qui nous environne et du monde déchu dans lequel nous habitons. Et ces moments difficiles aussi peuvent s'expliquer parfois en grande partie par le fait que comme enfants de Dieu, nous devons soutenir un combat spirituel parce que nous vivons dans un monde où les valeurs ne sont pas nos valeurs. Et vous comprenez toute cette rhétorique qui revient souvent dans les enseignements ici dans notre Église. Nous sommes en contre-culture. Notre culture n'est pas vraiment celle que les gens voudraient avoir autour de nous. Certains de ces événements seront aussi puissants que les grandes eaux ou les fleuves impétueux. Et vous savez qu'est-ce qui arrive après une tornade, une tempête? C'est la saison. Quand vous entendez qu'il y a une grande tempête, c'est la dévastation. Quand les eaux, les fleuves impétueux déferlent avec toute leur puissance, détruisant tout sur leur passage comme des ouragans. Jésus te dit, même dans ces circonstances, je suis présent, Christ est là et sera présent dans ta vie. Tu ne seras pas noyé. Les eaux ne te submergeront pas. Tu ne seras pas détruit. Tu sortiras la tête de l'eau. Et pour Ésaïe, quand il rappelait cela au peuple d'Israël, cela n'est pas sans leur rappeler leur propre histoire, eux qui ont traversé la mer Rouge à sec. Voilà ce que Exode 14, 21 et 22 nous rapporte.
Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Bien-aimés, d'autres événements seront plutôt semblables à un feu dévorant qui consume tout sur son passage. Avez-vous vu ce qui reste après des incendies sur un territoire ou sur une maison? C'est la ruine. Mais Christ te rassure ce matin, même dans ces circonstances, il est présent et sera présent. Tu ne te brûleras pas. Le feu ne te brûlera pas. Le feu n'aura aucun pouvoir sur toi. Bien-aimés, souvenez-vous de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ils l'ont expérimenté. Regardez avec moi cette extraordinaire histoire dans Daniel 3. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de feu. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi j'ai des frissons. J'ai des frissons tout simplement de voir se matérialiser, prendre forme littéralement la promesse de Dieu. Ils étaient combien dans le feu ? Trois ? Non, ils étaient quatre. Le roi Nebuchadnezzar a vu quatre. Combien sont sortis du feu? Trois. Le quatrième est passé par où? C'est lui qui est toujours présent. Et le roi même a affirmé que la figure du quatrième homme ressemblait à un fils de Dieu. Il n'avait jamais vu ça auparavant. Bien-aimé, voilà. Maintenant, imaginez que vous recevez... Vous êtes sur l'île de... Quelle île vous aimez le plus? OK, bon. Chacun fait son choix de l'île qu'il préfère. Vous êtes sur une île paradisiaque et vous recevez une alerte de tsunami. Alors, vous continuez à vous balader tranquillement sur la plage en slalomant entre les vagues comme un bon surfeur. Ou vous êtes chez vous. Et l'alarme incendie vient de partir. Vous vous levez de votre lit, vous vous étirez. Vous marchez tranquillement au travers le salon et vous allez voir dans la cuisine pourquoi vous étouffez dans les flammes et de la fumée. Non, bien-aimé, ça ne va pas se passer comme ça. Vous serez en panique et vous prendrez vos jambes au cou. Bien-aimé, la Bible nous dit, versets 2 et 3, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » L'Éternel te dit, pas de panique, tu peux marcher, je suis en contrôle. Pas de panique, tu n'as pas besoin de courir, tu peux marcher. Ce n'est pas bizarre que le texte dit, si tu marches dans le feu. Est-ce que quelqu'un marche dans le feu? On ne fait pas de la danse dans le feu. On ne marche pas dans le feu, mais l'Éternel dit, si tu marches dans le feu, parce qu'il a le contrôle, pas de panique. Attention, je ne suis pas en train de dire que si l'alarme incendie part chez vous, vous devez vous promener dans le salon avant et de courir au dehors. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle des circonstances de la vie dont les conséquences sont aussi dévastatrices qu'un feu brûlant. Bien-aimé, l'Éternel va jusqu'à même dire qu'il donnera tout pour te sortir de cette situation. Et s'il faut que 10 000 tombent, toi, tu resteras debout. C'est ce que déclare le psaume 91, le verset 7, que 1 000 tombent de ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les Égyptiens, eux, ils ont goûté. Ils ont tenté, ils ont dit, les Israélites sont passés à sec. Nous aussi, on va passer à sec. Qu'est-ce qui est arrivé? Il donnera même 1 000 personnes à ta place. Je donnerai l'Égypte pour toi. L'Éthiopie et Saba sont rien pour moi. Je les donnerai pour toi. Quand les serviteurs qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont allés prendre leur dîner chez eux le soir? Non, ils sont tombés morts simplement par le souffle de la fournaise. Voilà ce que l'Éternel est prêt à faire pour te racheter toi. C'est ce que l'Éternel déclare. Ne crains rien, je serai avec toi. Tu es précieux à ses yeux. Il t'aime. Face à ce débordement de zèle, face à cette démonstration de la puissance de Dieu pour nous sauver, on peut se poser la question, c'est quoi la raison? Pourquoi Dieu est si excité à nous sauver? Et la réponse est claire et Isaïe nous la donne, versets 4 et 5. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Et ce même plaidoyer, l'apôtre Paul le rend encore plus vibrant pour démontrer combien Dieu est prêt à donner tout ce qu'il a, à faire la démonstration de toute sa puissance pour nous démontrer qu'il tient à nous. Voyez ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains à ce sujet. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, je pourrais vous en dire plus et encore plus. Mais laissez-moi conclure ce matin avec cette petite histoire. Je vais demander à l'équipe de louanges de reprendre sa place. À voix basse, monsieur le curé parle avec le bédo, c'est-à-dire le concierge de l'église. Avez-vous remarqué cet homme qui entre tous les jours à midi dans l'église? Eh bien, c'est tous les jours pareil. Il entre, il reste une dizaine de minutes, puis il s'en va comme il est venu. Sa mine ne m'inspire pas. Vous savez, les décorations de l'hôtel sont en or et valent très cher. Essayez de le surveiller un peu. Le lendemain, un peu avant midi, le bédo, c'est-à-dire le concierge, se met à guetter l'homme, comme d'habitude. La porte s'ouvre, il pénètre dans l'église et reste immobile quelques instants. Puis juste avant de s'en aller, le bédo s'avance Et vous là, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Simon. Et qu'est-ce que vous venez faire comme cela tous les jours dans l'église à midi? Oh, rien. Ou plutôt, voyez-vous, j'entre, j'attends quelques moments, puis je dis, Jésus, c'est Simon. Je reste encore un peu et puis je m'en vais. Un jour pourtant, Simon ne vient pas dans l'église. Il s'est fait renverser par une voiture en traversant la rue. Une ambulance l'a recueilli tout meurtri et l'a conduit à l'hôpital voisin. Simon a été mis dans la chambre 223, dans laquelle il y avait déjà plusieurs malades. De tous, c'est lui le plus atteint. Pourtant, quel changement depuis son arrivée! Il remplit la chambre 223 d'une bonne humeur communicative. On a même vu rire même les plus grincheux. Liliane, une des infirmières, s'interroge. Elle finit par questionner les malades. « Oh, depuis que Simon est là, comment voulez-vous qu'on se plaigne? Lui, si malade, est toujours de bonne humeur. » Liliane s'arrête devant le lit de Simon. Ce qui me rend si heureux, eh bien, c'est mon visiteur de midi. Liliane sort de la 223 très perplexe. Elle ne se souvient pas avoir vu personne visiter Simon. Elle se renseigne auprès d'une de ses collègues. Quoi? Un visiteur tous les jours pour Simon? Mais ma pauvre Liliane, il est seul au monde, cet homme. Pas de parents, pas de famille. Et depuis qu'il est entré dans le service, personne n'est venu le voir. Il te raconte une histoire où il délire. Liliane, de plus en plus perplexe, s'en retourne près du lit de Simon. Vous dites que vous avez de la visite tous les jours? Oui, oui. Vous ne le voyez peut-être pas, mais tous les jours, à midi, il rentre, il se met au bout de mon lit, il reste un instant, puis il dit, « Simon, c'est Jésus. » Bien-aimés, comment pouvons-nous résumer l'exposé de ce matin? Le plus grand réconfort d'un chrétien se trouve dans cette certitude que lui donne le Saint-Esprit qu'il appartient à Christ, qui sera toujours présent dans sa vie et ceci partout et en tout temps. Et si vous êtes de la vieille école comme moi, probablement que vous connaissez bien ce cantique intitulé « Ne crains rien, je t'aime ». Voici ce que dit le premier couplet de ce cantique que nous allons chanter tout à l'heure ensemble avec l'équipe de louanges. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, tu n'as plus à avoir peur. Ne crains point, je t'ai racheté, j'ai payé un prix pour toi. N'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Et le couplet et le refrain de reprendre avec joie. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, bien-aimé, je suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Tout seul. seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
Et les deux prochains couplets reprennent cette réalité, cette vérité. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'il y a le soleil. On a vu des jours pluvieux, on a vu des jours sombres. Mais Jésus, ma lumière, luit tous les jours. La lumière que vous avez en Christ, ce n'est pas seulement pour certains jours de la semaine. C'est pour tous les jours de la semaine. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Même quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, même quand c'est sombre, quand il y a les nuages, Jésus me montre les cieux. Les dangers à court, subtils, inconnus, plus près qu'il m'entoure, plus près encore est Jésus. Qui dans le voyage me redit, c'est moi, je suis ton maître, je suis ton sauveur. Dans le voyage, il te dit, bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu te passes ce matin. Je ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas la mienne peut-être. Mais je sais une chose. Dans ton voyage, il te redit, c'est moi. Veux-tu croire? Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. En chantant ces deux derniers couplets, bien-aimé, pensons à ces paroles. Vivons, approprions-nous par ces paroles. Et laissons le Saint-Esprit digérer ces paroles dans notre vie. Laissons le Saint-Esprit venir appliquer ces vérités à notre cœur, que nous puissions ressortir ici en disant, Jésus-Christ est mon réconfort, quelles que soient les situations par lesquelles je passe.
L'aube matinière ne lui compte. Les dangers à court, subtils et inconnus, de près il m'entoure.
Amen.